7-9.
Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le mardi 15 février. Élysée 2022, les candidats face au 7-9. Vous le savez, c'est notre rendez-vous politique jusqu'à la présidentielle. Ce matin, le candidat communiste Fabien Roussel sera notre invité de 8h20 à 9h30. Vous pouvez lui poser toutes vos questions dès maintenant au standard qui est ouvert et vous attend. Vous aurez largement la parole tout à l'heure. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, les États-Unis déplacent leur ambassade de Kiev vers l'ouest de l'Ukraine. Mais la Maison-Blanche croit toujours à une solution diplomatique pour sortir de la crise. On voit ça, Anaïs, dès le début du journal après les autres titres.
Le Canada sort l'artillerie lourde pour déloger les camionneurs. Loi d'exception décidée cette nuit par Justin Trudeau. Emmanuel Macron en France s'apprête à nommer un nouveau juge au Conseil constitutionnel. C'est une information France Inter. Et puis en fin de journal, l'histoire industrielle de Montluçon racontée au théâtre à travers une grande saga familiale.
Et dites-nous, à 7h50, vos invités, Léa.
Les Infiltrés, c'est une enquête édifiante. Les grands reporters Mathieu Aron et Caroline Michel-Aguirre racontent comment les cabinets de conseil ont pris littéralement le contrôle de l'État, ont mis les ministères sous emprise et leur facturent des millions d'euros, rapports et autres préconisations. Ils nous expliquent tout ça en exclu à 7h50.
À tout à l'heure, Léa.
La guerre sera-t-elle évitée en Ukraine? Occidentaux et Russes laissent encore ouverte la porte de la diplomatie. Le chancelier allemand est à Moscou aujourd'hui. Et puis il y a les images de la télé russe hier. On y voit Vladimir Poutine interroger son ministre des Affaires étrangères. Il y a toujours une chance pour un règlement diplomatique, lui répond le ministre. Bien, dit Vladimir Poutine. Malgré tout, même si Moscou a mis fin hier à certaines manœuvres militaires, les troupes grossissent aux frontières ukrainiennes et les Américains, Sébastien Paour, se prépare à une intervention militaire russe.
Le drapeau américain ne flotte plus sur l'ambassade à Kiev, fermée et provisoirement transférée plus à l'ouest, à Lviv, à 70 km de la frontière polonaise. Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, attendu aujourd'hui au siège de l'OTAN à Bruxelles, puis en Pologne et en Lituanie, la Maison-Blanche assure qu'elle croit toujours à une solution diplomatique tout en préparant une offensive russe imminente. John Kirby est le porte-parole du Pentagone.
Military action could happen any day.
Une action militaire peut intervenir à n'importe quel moment. Et vous avez entendu le conseiller à la sécurité nationale dire clairement qu'elle pourrait avoir lieu avant la fin des Jeux Olympiques, peut-être même cette semaine. Donc je ne vais pas m'avancer sur une date précise, je ne pense pas que ce serait malin. Je vous dirais simplement qu'il est tout à fait possible que Poutine agisse sans prévenir ou presque.
That he could move with little to no warning.
John Kirby répète qu'une décision finale n'a sans doute pas été prise à Moscou. Il fait aussi allusion au soutien tacite de la Chine envers la Russie, encore plus déstabilisateur selon lui pour la situation sécuritaire en Europe. Pour son homologue au département d'État, il n'y a toujours aucun signe concret de désescalade. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Et Joe Biden qui s'est entretenu hier avec Boris Johnson. Il reste une opportunité cruciale pour la diplomatie, disent les deux hommes. Au Canada, elle n'avait été utilisée qu'une seule fois en 1970. La loi d'urgence réactivée par le Premier ministre pour mettre fin au blocage des manifestants anti-mesures sanitaires. Alors que l'Ontario où se situe Ottawa annonce lever bientôt la quasi-totalité des mesures dont le passeport vaccinal. Pas de quoi pourtant décourager les manifestants à Ottawa. Pascal Guéricola.
En théorie, les camions stationnés dans le centre-ville d'Ottawa depuis 19 jours devraient quitter les lieux sous peu. Dans les faits, ils se sont simplement regroupés tout au long de l'immense avenue qui longe le Parlement canadien. Les tentes, la musique, les feux en plein air restent en place. Au volant d'un immense poids lourd, Taylor affirme qu'il est là pour rester.
Jusqu'à ce que toutes les mesures sanitaires soient annulées et qu'on retrouve notre liberté, je resterai ici jusqu'à ce que ça arrive et ça prendra le temps qu'il faut.
À l'entrée de l'avenue, la voiture brinque-ballante de Mathieu est décorée de messages de toutes sortes. À l'intérieur, ce Québécois, attiré par la liberté qu'incarne le mouvement, se sent prêt à tout pour continuer à en faire partie.
C'est rien de nous arrêter, on s'en fout. Ils pourraient me donner 7 millions en ticket, 25 ans de prison. Tant que je suis aligné avec mon cœur, tant que je suis aligné avec la vraie personne que je suis, je peux pas vivre sans faire ce move-là.
Installés dans leur voiture, les policiers observent les routiers rire, chanter, fumer une cigarette. Sans agir pour l'instant. À Ottawa, Pascal Guéricola pour France Inter.
En Europe, le Danemark, lui, travaille à planifier un plan d'arrêt organisé de la vaccination. En France, à partir d'aujourd'hui, pour garder un pass vaccinal valide, le délai pour la dose de rappel est ramené de 7 à 4 mois, entre 4 et 5 millions de personnes concernées. Et ce geste du ministère de la Santé en direction des détenteurs de faux pass, ils peuvent se faire vacciner sans risquer de poursuite. L'annulation du cycle vaccinal frauduleux sera faite par le chef du centre de vaccination. Depuis plusieurs jours maintenant, le nombre de patients Covid en soins intensif est en baisse, décrue aussi des contaminations et peut-être bientôt le retour des pots au bureau. Moment de convivialité autorisé, mais avec gestes barrières. Le nouveau protocole en entreprise sera publié demain.
Il est 7h06 pour la première fois depuis 2007. Le Parti communiste ne fait pas alliance avec la France insoumise.
Et présente même son propre candidat, Fabien Roussel. Il sera l'invité de la matinale grand format d'Inter tout à l'heure, de 8h20 à 9h30. À gauche, le patron du Parti communiste est bien derrière Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Christiane Taubira. Et pourtant, c'est le candidat dont on remarque la campagne avec un style bien à lui, comme cette photo publiée hier, le jour de la Saint-Valentin, enlaçant sa compagne avec ce vers du poète communiste Paul Éluard. Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre. Laurence Perron.
Le Chirac rouge, comme le surnomme la droite, a le verbe malin.
Que personne ne vienne me dire « Roussel, touche pas au Grisby !»
Celui de l'ancien journaliste qui sait faire mouche dans les médias.
Ce sont les riches qui nous coûtent cher. Eh bien moi, je vous propose une autre théorie, le roussellement.
Une séduction indéniable qu'il n'a guère besoin de forcer. Il aime les gens et sa campagne est d'abord une campagne de terrain. Quand Fabien Roussel n'est pas sur un piquet de grève ou dans une manif de travailleurs, il est sur un péage à défendre la renationalisation des autoroutes.
Le gouvernement de droite, Sarkozy, De Villepin, Chirac, l'avait privatisé. Nous demandons la renationalisation pour nous réapproprier ce bien.
Mais soudé dehors, bonhomme, c'est un apparatchik, un redoutable politique qui a bien compris que pour se démarquer de Jean-Luc Mélenchon, il fallait taper plus à droite. La sécurité des fins de mois et celle du quotidien, quitte à fâcher dans ses rangs, en s'affichant devant l'Assemblée nationale aux côtés de policiers et de l'extrême droite.
Je ne suis pas comme ceux qui traitent de factieux ou de fascistes les policiers en les mettant tous dans un même sac.
La stratégie semble pour leur payante, mais nombre de ces jeunes députés s'inquiètent. À 5%, Roussel aura réussi son coup personnel, mais rien ne dit que cela assure une victoire collective aux prochaines législatives.
Et à 54 jours du premier tour, le président de la République, toujours pas candidat, s'apprête dès cette semaine à nommer un nouveau juge au Conseil constitutionnel. C'est une information France Inter. Sur les 9 membres, 3 mandats expirent. Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat vont donc eux aussi nommer chacun un juge. Emmanuel Macron, lui, y travaille depuis le mois de décembre. Et Yael Gauz, on guette bien sûr le signal politique.
C'est un acte à très haute valeur symbolique, insiste un haut magistrat. Dernière nomination avant d'entrer en campagne et message de confiance adressé à une institution aujourd'hui attaquée dans la campagne par Éric Zemmour. Alors, profil technique ou profil politique, le nom de l'ancienne garde des Sceaux, la socialiste Elisabeth Guigou, revient avec insistance, mais on parle aussi de l'ex-magistrate devenue députée Modem, Laurence Wisniewski. Si c'est un profil plus technique, d'autres noms circulent. Chantal Arens, l'actuelle présidente de la Cour de cassation, Jean-Michel Hayat, premier président de la Cour d'appel de Paris, et ceux des hauts fonctionnaires Jean-Marc Sauvé et Christian Vigouroux. En 2019, Emmanuel Macron avait choisi un fidèle de la première heure, Jacques Mézard, proche des radicaux de gauche, et au même moment, Richard Ferrand faisait entrer Alain Juppé parmi les sages. L'équilibre politique sera-t-il encore un critère cette fois-ci? Il faudra guetter le choix du président LR du Sénat, Gérard Larcher. On évoque le nom de la juriste Anne Levade. Prise de fonction le 14 mars, nouvelle équipe, toujours sous la houlette de Laurent Fabius, censée veiller au bon déroulement de la présidentielle.
Trois nouveaux juges bientôt nommés au Conseil constitutionnel. C'est aussi à lire sur franceinter.fr. Une enquête préliminaire pour délit d'initié ouverte par le parquet national financier. Elle vise l'ex-directeur général d'Orpea qui avait vendu pour un demi-million d'euros d'actions 3 semaines avant la parution du livre Les Fossoyeurs. C'est elle qui est à l'origine de la plainte pour tentative d'agression sexuelle contre Jean-Jacques Bourdin. La journaliste Fanny Agostini s'explique dans Mediapart qui a recueilli aussi d'autres témoignages. Jean-Jacques Bourdin, l'animateur de RMC et BFM TV, nique catégoriquement, une enquête est en cours.
France Inter, il est 7h09. Les habitants de Saint-Laurent de la Salanque, encore abasourdis ce matin.
Au lendemain de l'incendie et de l'explosion qui ont touché 3 immeubles près de Perpignan avec un lourd bilan, 7 morts et 1 ou 2 encore disparus. Les riverains ont été accueillis au foyer rural de la commune où un soutien moral et matériel a été mis en place pour les victimes, comme l'explique le procureur de la République de Perpignan, Jean-David Cavaillé.
Certains ont perdu des proches. Et c'est donc leur monde qui s'écroule et il faut maintenant les aider à verbaliser cela. C'est pour ça qu'il y a des psychologues. Et puis aussi les aider à se repérer dans les démarches administratives à faire. Elles ont tout perdu, certaines, elles ne peuvent pas récupérer leurs documents d'identité. On a une vingtaine de victimes directes et puis on a leurs proches qui sont là aussi. Donc on est autour d'une trentaine de personnes qui peuvent venir s'exprimer. Mais on peut aussi avoir des personnels de la mairie qui ont aidé et qui sont quand même très émus parce qu'elles ont vécu et qui peuvent aussi venir s'exprimer. C'est-à-dire que dès lors qu'on a, du fait de cet incendie, du mal à vivre ce moment-là, on peut venir et s'exprimer auprès des psychologues.
Jean-David Cavaillet, le procureur de la République de Perpignan, au micro de France Bleu Roussillon. Un accident de chasse dans l'Yonne, un homme de 70 ans blessé au genou par un éclat de balle de chasseur. Il était tout simplement chez lui, à l'extérieur de son domicile à Brosses, alors qu'un chevreuil était non loin. Le chasseur a reconnu les faits, il est en garde à vue. Pas de nouvelle médaille pour Tesla 2 au JO de Pékin. Le slopestyle a été remporté par la Suissesse Mathilde Grémaud, la Suisse qui remporte une autre médaille d'or cette nuit. Corinne Sutter en descente devant deux Italiennes, dont la tenante du titre Sofia Goggia. La France, en revanche, tente sa chance dans le relais en biathlon, titre jamais remporté. Mais ça peut changer avec Quentin Fillon-Maillet. Nous serons sur la ligne de départ dans le journal de 7h30. Autre grand rendez-vous sportif, le PSG reçoit le Real Madrid. C'est à 21h, 8e allée de la Ligue des champions de football. De l'exploitation de la houille jusqu'au déclin industriel, comment évoquer l'histoire ouvrière de la France au théâtre? La pièce « Un siècle » raconte celle d'une même famille de Montluçon à travers trois générations. Créée d'ailleurs à Montluçon, visible en ce moment à Paris, cette grande saga, Stéphane Capron, mêle fiction et documentaire.
Je n'ai pas voulu d'homme dans ma vie, ce n'était pas pour me laisser gouverner par un dictateur en culotte courte.
Les enfants et les petits-enfants de Galia Libertad sont réunis au chevet de la vieille dame pour une dernière veillée. À travers le personnage imaginaire de cette femme forte, Carole Thibault dresse à la fois le portrait d'une famille d'ouvriers sur trois générations, mais aussi le portrait d'une ville industrielle, Montluçon.
Début 19e, bam, ça part, les usines et tout. Et là, la ville, elle passe de 5000 à 65000 habitants en quelques décennies quand même. Il faut bien se rendre compte de la révolution dans la ville, l'immigration, alors toutes les cultures qui se mélangent, etc. Et puis, dès les années 60, ça y est, ça périclite. Et Montluçon, c'est une ville comme tant d'autres dans l'Est de la France, dans le Nord, enfin partout. En fait, le territoire français, comme partout, est traversé par ça. Mais quand on regarde l'histoire de Montluçon, je trouve qu'on comprend quelque chose de l'histoire de ce siècle de manière extrêmement forte.
Carole Thibault réussit le pari de lier les histoires intimes de cette famille à celle de la grande histoire de Montluçon, à son passé industriel, aux occupations de l'usine Dunlop, à la rafle méconnue en 42 de 142 juifs par les autorités de Vichy. C'est une grande fresque traversée par la question de la place de la femme dans la société patriarcale du XXe siècle, du travail d'orfèvre, une pièce totalement captivante.
Un siècle, c'est à voir jusqu'au 26 février au Théâtre de la Cité Internationale à Paris et puis fin avril à la Maison de la Culture de Bourges.
Merci Anaïs Feugat. Dans 3 minutes, le zoom sur Radio Begum, une radio pour et par les femmes afghanes.